Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de donner le coup d'envoi de la semaine en votre compagnie, comme chaque lundi dans Radio Foot. La Cup n'est pas encore pleine, mais son dernier carré est connu. Aston Villa, notamment, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Compétition historique s'il en est, c'était ce week-end, sans forcer, avec un doublé de Marcus Rashford pour les Villains. Un fantôme, bientôt de retour au Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des Champions. Il y aura Rashford, il y aura aussi Emery, Lucas Digne, Asensio, voilà, autant de joueurs en mesure de jouer un vilain tour, vous aurez reconnu le jeu de mots, aux Parisiens. Il n'y a pas que les Peaky Blinders qui puissent semer la terreur à Birmingham. Focus sur Aston Villa dans Radio Foot ce lundi avec Mister Premier League, le plus british de nos consultants, le plus homarnais ou le plus odonien également, Bruno Constant.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Vous agitez déjà les fantômes 9 jours avant PSG à Sevilla.
Il faut dire qu'un certain Eric Rabessandratana est avec nous.
Ça commence.
Et que mon sport favori, c'est quand même de titiller l'ancien capitaine et défenseur du PSG. Monsieur Rabessandratana, bonjour.
J'ai eu peur, je crois que tu parce que tu parlais de fantômes, je pensais que tu parlais de moi, donc
ah non,
ça va. J'ai eu peur.
Non, sûrement pas, je n'oserais pas. Vous avez de beaux restes tout de même le match Aston Villa PSG, en tout cas on le fait débuter dans notre studio, sachant que la vraie rencontre elle aura lieu la semaine prochaine. Effectivement, Eric, il va vous falloir un peu patienter pour voir les Villains au Parc des Princes, pour voir également votre club de cœur, champion de France. Je sais, c'est dur. Marseille a tout fait pour vous faciliter la tâche. Nice, en revanche, vous a plombé. Nice qui a perdu contre Monaco, vous auriez quand même pu faire un effort. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour, les fantômes n'étaient pas que du côté d'Aston Villa, ils étaient aussi à Nice et à Marseille ce week-end, mais on va en parler.
Ça fait beaucoup de fantômes direct dans une émission qui, j'espère, ne vous fera pas trop peur. Nice, toujours en course pour la Ligue des Champions néanmoins, ça pousse derrière.
On
en parle
dans Radio
Foot. C'est
la course de lenteur derrière le PSG, donc il y a toujours des chances.
Ah bah vous la vendez bien cette Ligue 1 dont on va parler dans quelques instants. On parlera aussi de l'Italie, premier réussi pour un ancien du championnat de France, justement Igor Tudor. Igor Tudor qui a remporté son premier match en tant qu'entraîneur de la Juventus Turin. Radio Foot préparé par Pierrot Guérin, évidemment, réalisé par le maestro Laurent Salerno. C'est parti.
C'est frappé, lucarne, un but partout. Kvichak, Varache, Krenia ne rate jamais. 2-1 pour Paris, Désiré Doué et le PSG mènent maintenant 3-1. João Neves permet à Paris de mener 4-1. Doué, il est trop fort, comme Paris, 5-1 pour le PSG.
Ce ballon pour le 6-1, Ibrahim Baye.
L'AS Saint-Etienne avait fait une très belle première période. Il y avait un but partout à la mi-temps, entre les Verts et le Paris Saint-Germain. Mais ce Paris Saint-Germain est fort, très fort, trop fort pour la Ligue 1. Paris s'impose 6-1.
Ce samedi aurait pu être très sympa, encore plus sympa à Paris, puisqu'il y a eu ce même jour la lourde défaite de l'OM à Reims, on va y revenir. La large victoire, vous l'avez entendu, du PSG à Saint-Etienne, 6-1 pour le compte de la 27e journée du championnat de France. Le problème, c'est cette victoire de Monaco contre Nice dans le derby de la Côte d'Azur, pardon, qui fait que mathématiquement, au lendemain donc de la 27e journée de Ligue 1, eh bien le suspense dans la course au titre, il est à son comble. 21 points d'avance seulement pour le PSG sur son premier poursuivant.
Quelle mauvaise saison.
Je plaisante, donc ce sacre, il est imminent. Ça ne vous a pas gâché votre samedi d'attendre un petit peu, de le voir être un peu retardé, Eric?
J'ai envie de dire tant mieux pour la suite de la bataille derrière, quoi. Mais sinon, non, évidemment que c'était un très bon week-end, puisque quand on met 6, même si c'était Saint-Etienne, et même si Saint-Etienne, peut-être par rapport à la prestation de ce match, ne méritait pas d'en prendre 6, mais évidemment, face à l'efficacité de Paris, c'est compliqué de résister.
Par rapport au fait que Paris doive patienter, un peu à cause de vous, Patrick, oui, je le disais, de la contre-performance de vos champions niçois pour le PSG. Là, on est vraiment dans une configuration où tout ça devient très, très secondaire. Oui. Ou alors, ça aurait été sympa quand même régler le problème du championnat
là,
de France.
Là, le problème
suite.
Est réglé parce que c'est purement mathématique et c'est une pure précaution rhétorique de dire qu'ils ne sont pas encore champions, mais ils sont champions. Un accident n'est plus possible.
Ils peuvent perdre les derniers matchs.
Ils ont... Comment ?
Ils peuvent, mathématiquement, ils peuvent encore perdre le championnat ?
Oui, mathématiquement, mais ça me paraît peu... C'est arrêter d'agiter un faux suspense. On croirait que vous travaillez pour
vendeur,
le diffuseur.
Quel mauvais vendeur.
Bruno Constant, enfin...
Mais non, il n'y a plus que sérieux. Bruno Constant qui souhaite...
Et le diffuseur.
Je ne souhaite rien du vendre tout.
La Ligue 1.
Non, mais non, le PSG a joué 50 minutes, a mis 6 buts. Donc peut-être s'ils avaient joué 90 minutes, ils en auraient mis 10 à Saint-Etienne. Vu la défense de Saint-Etienne... C'est terrible. Il y a des joueurs qui ont fait une bonne première mi-temps. Batoubine Sika, par exemple, pendant la première mi-temps, il gagne ses duels parce que le PSG n'a pas encore mis le pied sur l'accélérateur. Et ensuite, lui, comme les autres, il est complètement submergé.
C'est vrai.
Saint-Etienne a au moins montré un peu de personnalité, mais malheureusement, l'équipe est trop coupée en deux et le PSG s'est engouffré dans les brèches de manière dévastatrice.
C'est vrai que le score peut être un petit peu trompeur sur le papier, parce que Saint-Etienne a ouvert la marque et a longtemps mené avant l'égalisation de Gonzalo Ramos juste après la pause. Et puis c'est surtout au retour des vestiaires que Paris a accéléré. Mais... Gonzalo Ramos fait partie de ces joueurs parisiens qui vont nous permettre de peut-être tirer quelques enseignements de cette victoire parisienne, somme toute assez logique.
C'est un objectif et si on est champion aujourd'hui, c'est magnifique. On ne pense pas beaucoup de le record et tout, mais si on peut faire ça, c'est incroyable. On ne parle pas de ça, on fait le... La recoupe, on y va à la maison.
Gonzalo Ramos, l'avant-centre portugais du PSG, donc buteur, l'un des buteurs du PSG à l'occasion de la victoire 6 buts à 1 Saint-Etienne, qui fait l'effort de parler français, c'est admirable. Il ne se plaint pas d'être régulièrement remplaçant et de prendre sa chance quand on la lui donne dans des matchs un peu moins importants que ceux des joutes européennes. Il parle d'un record, en fait ce serait la possibilité de terminer la Ligue 1 sans perdre le moindre match. C'est ça un peu l'objectif symbolique du PSG.
Ils disent que non, mais je pense que
du PSG.
C'est une carotte, ça.
Est-ce que, à l'instar de Gonzalo Ramos, cette période, pour certains Parisiens qui jouent un peu moins, elle n'est pas très importante. C'est-à-dire, autant les titulaires, ils expédient les affaires courantes, autant certains Bruno Constant, certains joueurs comme Gonzalo Ramos pourraient peut-être profiter de cette période pour semer le doute dans la tête de Luis Enrique et peut-être trouver une place dans le 11 de départ pour affronter Aston Villa.
Vous y croyez ?
Il faut alimenter le débat. Donc, j'aurais aimé un peu plus de...
On peut essayer de
collaboration de votre part.
On peut essayer, effectivement, on peut essayer de faire un faux débat, animer un faux débat. Mais non, dans la tête de Luis Enrique, c'est assez clair. Le 11, il s'est dégagé. Il y a quelques interrogations, ça va être le troisième milieu de terrain entre Ruiz et Emery éventuellement, mais le trio d'attaque, parce qu'effectivement Désiré Doué, c'est Désiré Doué qui pour le coup pousse de plus en plus.
Entre Barcola et Ali, ils sont trois pour deux postes.
Et Gvara,
sachant que Dembélé est inamovible.
Gvara, la montée en puissance qu'il a depuis quelques semaines, il en fait presque un titulaire indiscutable.
Montée en puissance et puis il apporte des choses que les autres n'ont
pas.
Si j'en crois la disposition des joueurs sur le site de l'équipe, Neves, qui est plutôt milieu de terrain, joue plutôt arrière-droit parce qu'Hakimi était au repos. Doué était plutôt milieu de terrain, lui qui est plutôt attaquant. On avait Beraldo, on avait donc Gonzalo Ramos. Donc voilà un petit peu pour les changements, mais c'est des changements... de circonstances, de rotation de championnat, Eric Rabessandratana.
C'est des changements que peut se permettre Luis Enrique aujourd'hui parce qu'il y a une domination tellement, tellement forte que faire reposer Nuno Mendes et Achraf Hakimi le même jour, c'est parce que tu sais très bien que tu maîtrises et que derrière, il y a des joueurs intelligents qui sont capables de prendre le relais parce que Neves, c'est pas un latéral droit, évidemment, comme Zaïre Emery qui dépanne des fois à ce poste-là. Mais il y a tellement une configuration tactique de permutation quasi permanente.
C'est tellement bien huilé
c'est ça qu'il faut comprendre dans le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est que Luis Enrique a réussi à mettre en place des choses assez incroyable que les joueurs ont emmagasiné depuis un moment et qui maîtrisent aujourd'hui totalement. C'est pour ça qu'on voit tellement de facilité dans les permutations, dans le jeu simple, dans la communion qu'il peut y avoir collective. C'est que c'est un travail de longtemps. C'est pour ça que ça fait sur deux ans quasiment qu'on voit le Paris Saint-Germain faire ça. Sauf que c'était pas évidemment aussi efficace jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on voit les résultats.
Bon, le samedi aura été bon, même s'il n'y a pas eu de titre à la clé pour Paris. Ce sera la semaine prochaine contre Angers au Parc.
La semaine prochaine. Je ne crois pas qu'il y ait de conditions la semaine prochaine, c'est juste gagner.
C'est samedi à 17h, je crois.
Oui, et l'after, c'est chez Eric Rabé et Sandra Tana, puisqu'il a déjà accroché les ballons, oui, il a sorti les confettis, les chapeaux.
Le match est en fin d'après-midi, donc les supporters et les suiveurs du club auront toute la soirée pour faire la fête, a priori, donc c'est bien configuré, quoi.
Encore faut-il qu'il s'intéresse encore.
Bravo la Ligue, pas tout le temps, mais bravo la Ligue.
Alors que la Ligue des Champions est évidemment l'objectif principal, le match aller, ce sera au Parc des Princes, justement,
mercredi
contre Aston Villa, le 9 avril, retour le 15. On laisse de côté Paris et on en vient au cauchemar rémois de l'Olympique de Marseille.
Et la possibilité, une nouvelle fois en contre pour les Rémois. Il y a des appels, beaucoup d'appels, avec la vitesse dans la surface de réparation. Valentin Tangana pour paraffer le succès du Stade de Reims. C'est une déroute qu'est en train de vivre l'Olympique de Marseille à Delaune.
Voilà, on a des objectifs, on a affiché des objectifs. On en parle chaque semaine, chaque week-end. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer. Qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Moi, je sais pas, la Ligue des Champions, c'est un objectif qui est important pour un joueur de football. Jouer cette compétition-là, c'est quelque chose de grand. Il y en a qui l'ont pas joué ici, peut-être qu'ils la joueront jamais. Et je comprends pas qu'on ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout.
Déroute à Reims pour Marseille et pour un ancien parisien, Adrien Rabiot, qu'on vient d'entendre pousser un sacré coup de gueule à l'encontre de certains de ses coéquipiers. C'est assez rare pour être signalé. Troisième défaite de rang en Ligue 1 pour l'OM. La quatrième sur les cinq dernières sorties. Et un serrage de vis, pas seulement pour Adrien Rabiot, qui est l'un des cadres du vestiaire, mais pour l'entraîneur, tout simplement, Roberto De Zerbi, après la déroute, et notamment dans la foulée, une nuit passée au centre d'entraînement pour les joueurs, interdit entre guillemets de rentrer chez eux, un décrassage matinal, très matinal, et on imagine houleux. Le lendemain, Bruno Constant, état de crise à Marseille, serrage de vis, ça vous inspire quoi cette drôle de séquence?
J'irai pas jusqu'à dire état de crise, parce qu'on n'est pas dans la crise quand même à l'OM, on a vu pire. Les crises à l'OM, ça fait des fracas.
Là, L'OM relégué à la troisième place, qui a longtemps été deuxième, mais qui est relégué troisième.
Ils sont dans un mauvais cycle, une mauvaise série, assez négative, 4 défaites en 5 matchs. Et effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On sent que Roberto De Zerbi, il n'a pas perdu la main, mais il est en train de subir de plein fouet, pour moi, un effectif qui est très déséquilibré. On a entassé les milieux de terrain, et notamment des milieux de terrain de classe internationale ou internationaux. Ça manque de défenseurs. Dès qu'il y en a un ou deux blessés, il bricole avec un milieu de terrain qui décroche. Alors une fois, c'est Rongier, une fois, c'est Kondogbia. Et puis, il n'y a pas d'avant-centre. Moi, je veux bien, Goury, c'est un bon joueur offensif, c'est un bon attaquant, mais c'est pas un avant-centre. Ni le Mopé, on a vu des limites. Là, il a disparu de la circulation, on ne sait pas trop pourquoi. Et à un moment donné, vous payez, pour moi, le mauvais casting. Mais effectivement...
Il y a un joueur offensif, en tant qu'amoureux de la Première Ligue, que vous épargniez dans votre analyse, un certain Mason Greenwood, qui est quand même le fer de lance.
Non, je le grand pas. Absent de la période. Je ne l'épargne pas, mais s'il n'est pas là en début de saison, je pense que l'OM n'est pas deuxième ou troisième.
Que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-il sombré lui aussi ces derniers temps?
Parce que c'est un jeune joueur, parce qu'il peut avoir des je ne vais pas dire des jours sans, mais des mauvais cycles aussi. Ça peut arriver. Il faut rappeler qu'il sort d'une période de 3 années très compliquée.
De placard.
Extrêmement compliquée. De placard, une année et demie où il n'a pas joué. Une année où il s'est relancé en Espagne. Et là, on a mis tout de suite la pression sur lui parce que c'est le grand joueur de l'OM. Il a, pour moi, endossé ce rôle-là sur la première partie de saison. Et peut-être qu'il aurait fallu le ménager un petit peu. Mais moi, je suis d'accord avec Adrien Rabiot. Ces mots, ils sont très durs, mais pour moi, ils sont justes. C'est pas normal que l'OM, avec un match par semaine, ne soit pas quasiment assuré d'une place dans les 3 ou les 4 premiers. Ça, c'est pas normal. Et par rapport à Lille, qui a enchaîné la Ligue des Champions, par rapport à Monaco... C'est pas logique. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce club-là. Donc c'est normal de. Après, pour moi, c'est pas une crise. Hein.
Non, c'est pas une crise, mais quand même, si on prend les points pris depuis le début des matchs retour, donc depuis la 20e journée, l'OM n'a pris que 12 points. C'est-à-dire deux fois moins exactement que le PSG, qui en a pris 24.
Oui, ne mettons pas le PSG dans la norme.
D'accord. Mais si on compare à Strasbourg, 7 points de moins, 4 points de moins que Monaco, qui a pourtant pas été irréprochable.
C'est ça.
Moins de points, 3 points de moins que Lyon ou Rennes. et 3 points de moins que Lille, qui jouait pourtant une Coupe d'Europe
points,
en même temps.
Non, mais 3 points de moins que Lille et Lyon et 4 points de moins que Monaco, c'est pas catastrophique.
J'ai pas dit ça, simplement, c'est un club...
Tout se resserre, en fait.
Disons
tout
que se resserre, ça c'est vrai. L'avance qu'ils avaient et l'assurance qu'ils avaient, parce qu'ils... Deserbi avait trouvé un schéma qui fonctionnait, qui assurait une sécurité à cette équipe qui, même parfois sans faire des matchs pleins de 90 minutes, avait assez de marge pour à peu près tout gagner. Cette avance-là, elle a fondu. Et pour moi, ils ont une crise, vous l'avez dit à juste titre, Bruno, ils ont une crise dans la constitution de l'effectif. C'est-à-dire que certains postes sont complètement dépeuplés. Là, Balerdi s'est blessé. On a appris aujourd'hui que sa saison était terminée.
Balerdi, capitaine défenseur central. Est-ce qu'on va atteindre le point Chancel, Memba?
Et alors justement, j'allais y venir. Ce joueur-là, qui est sans doute dans l'effectif le deuxième meilleur, ou peut-être même le meilleur, ça c'est pas le sujet du jour, défenseur central de l'OM, il est placardisé. Et je pense que pour des raisons à la fois d'ego et de... volonté de ne pas se renier, les dirigeants ne le sortiront
oui,
pas du placard.
Oui, c'est un problème de négociation contractuelle qui fait que le grand joueur congolais il est au placard. N'a pas
c'est
joué
comme si
avec
tu
avais cette
ta
saison.
Faute si tu le remettais dans l'effectif.
Voilà.
C'est juste ton meilleur défenseur, accessoirement.
Exactement. Ouais. Et donc, aujourd'hui, Deserbi va être obligé, sur la fin de saison, de bricoler, à faire une défense avec deux milieux, sans doute avec Højbjerg et Kondogbia, parce que je vois pas où Rongier, mais en
plutôt.
Tout cas avec une défense à dominante de milieu de terrain qui bricole à ce poste-là. Donc, c'est pas sérieux de la part de l'OM et au-delà de tout le reste. Et
Eric
puis,
juste
un petit truc. Rabiot, il a ouvert le feu un petit peu sur ses coéquipiers, mais sans les nommer. Bon, heureusement d'ailleurs, je pense que pour le vestiaire, mais...
Apparemment, il y a eu des discussions dans le vestiaire.
Ouais, et
donc
on peut
il
penser
a
que Greenwood était dans les joueurs visés parce que Deserbi lui-même avait dit sur l'attitude, je trouve qu'il en met moins que ce qu'on peut en attendre.
Alors,
quelques matchs, quoi.
Je voudrais donner la parole à Eric Rabessandratana. Vous avez été joueur, vous avez connu des crises au Paris Saint-Germain, notamment.
N'importe quoi.
Mais non, pas du tout. pas de défaite du côté de Sedan. Des soirs de l'an 2000. Non, mais plus sérieusement, donc il y a eu apparemment donc ces déclarations de Rabiot, on les a entendues, mais apparemment il y a eu une explication. On s'est dit les choses entre Marseillais dans l'intimité du vestiaire. Il y a eu cette espèce de mise au vert à la commanderie, au centre d'entraînement avec les joueurs confinés entre guillemets, le décrassage matinal. Donc on a senti les méthodes. Qu'on voit régulièrement,
ce
ou dont on entend parler, régulièrement parler.
Rome,
effectivement,
ça avait été efficace.
On avait eu un peu ce genre de stage commando également pour l'OM
avant
au mois
Monaco,
de novembre, après une défaite à domicile contre Auxerre. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche cette méthode full metal jacket en cas de crise?
Ça marche quand vous avez des joueurs de caractère qui sont capables de se remettre en question et se remobiliser sur des périodes qui sont un peu plus difficiles. Après aujourd'hui. Est-ce que justement cette période et les résultats qu'on voit à Marseille ne met pas plutôt en lumière la réalité du niveau de cette équipe de Marseille? Je crois qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité, évidemment, mais est-ce qu'ils ont une énorme qualité comme on essaie de nous le vendre depuis le début de saison? Moi, j'ai trouvé que cette saison, j'avais l'impression qu'on m'avait transformé l'OM en Real de Madrid. Et quand je vois la saison proposée...
Tu vas loin, là.
Non, je vais loin. Ah, oui. Non, mais quand je vois...
Non, mais il y avait des attentes.
Non, mais bien sûr, j'avais l'impression
que c'était
tellement
séduisant.
Une évidence pour tout le monde que Marseille serait deuxième, très loin devant tout le monde et tout ça, qu'aujourd'hui, et là, dans la difficulté de voir ces équipes se rapprocher et d'avoir la pression du résultat et l'obligation de résultat pour se qualifier pour la Ligue des Champions, peut-être qu'on va voir finalement les craintes qu'on pouvait se poser au début.
Marseille dépassé au classement, je le disais, par Monaco, qu'on avait un petit peu oublié, une sorte de belle endormie de la Ligue 1, cette ASM. Nice reste quatrième, malgré sa défaite donc à Monaco chez le voisin. Lille et Strasbourg talonnent les aiglons, va falloir faire attention, Patrick Juillard. On peut même parler de Lyon, septième à deux points de Nice, mais battu par Strasbourg, le sixième justement, 4 buts à 2. C'est clairement le feuilleton le plus intéressant, cette course, aux 4 places. On va plutôt dire aux 3 qui suivent le PSG parce qu'elles sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Bruno Constant, vous voyez ça, comment est-ce que Nice va s'écrouler? Est-ce que Monaco, il ne fallait pas les sous-estimer? C'est vraiment la deuxième équipe de Ligue 1. Est-ce que Lyon est décroché? Est-ce que Strasbourg va y arriver? Vous voyez ça comment?
Déjà, ça montre que Marseille a été régulier sur les 4-5 dernières journées. Mais Monaco l'a été aussi avant, a eu un énorme trou. Lille l'a été aussi, à un moment donné, on les voyait très beaux, presque à la deuxième ou troisième place, ils ont craqué aussi à un moment donné.
Là, ça va mieux, ils ont gagné derby contre Lens.
Montre aussi l'irrégularité de toutes ces équipes, qui défensivement sont pas très fortes, moi je trouve. L'OM, on l'a vu, c'était catastrophique à Reims. Mais Monaco, c'est pareil, ils sont très déséquilibrés. Pour moi, il y a quand même une petite longueur d'avance pour Monaco, Marseille et Lille, qui a un peu plus d'expérience, notamment européenne, même si l'OM joue pas d'Europe. Strasbourg, c'est quand même une énorme surprise, pour pas dire un petit miracle.
Ils sont estampillés Première Ligue, ce miracle.
Bravo à l'entraîneur.
Ouais, bravo à l'entraîneur. Parce que
on rappelle que Strasbourg est un peu club filial, même complètement club filial de Chelsea.
Club satellite, on peut le dire, de Chelsea, avec un propriétaire, Blocco, qui a fait absolument tout et n'importe quoi à Chelsea. Ça ne marchait pas pendant 2 ans. Et là, ça, on ne sait pas pourquoi, en 6 mois, ça a marché à Strasbourg et ça débouche sur une équipe qui tient la route. Mais voilà, toutes les bonnes séries, généralement, s'arrêtent. Et moi, j'ai peur que Strasbourg, ça s'arrête à un moment donné, quand il y a un petit retour à la réalité. Lyon a les qualités et l'effectif, normalement, pour remonter, à proximité, en tout cas, du podium. Mais pour moi, c'est très équilibré. Là, c'est difficile de prédire qui finira
dans les cadres. Et ça nous rend finalement une Ligue 1 dont on dit pique-pente, mais qui n'est pas si inintéressante sur son sprint final par rapport à la course à l'Europe.
Oui,
Nice va y rester ?
Nice va y rester, mais j'ai peur que ça soit ce qu'on voit dans les matchs à gros enjeux, comme celui de Monaco, ça soit un peu juste niveau, je dirais, mentalité, niveau envie pour arriver à être top 3.
Nguessan ne suffit pas.
Non, mais j'allais dire, après, c'est pas une question de qualité, parce qu'elle a quand même une belle équipe.
Non, c'est pas une question de qualité, c'est une question, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire mal ensemble 90 minutes quand c'est difficile ?
Est-ce qu'ils ont
alors, en Coupe d'Europe,
ça,
on a eu une réponse négative, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup d'absents qui peuvent aussi justifier que les remplaçants n'ont pas vraiment donné mille doutes dans la tête de l'entraîneur. Bon, c'est du passé.
Après, est-ce qu'ils ne rentrent pas juste un tout petit peu dans le rang, finalement ? Parce qu'on ne les voyait pas si haut non plus.
Mais moi, ce qui m'a choqué un petit peu, c'est que normalement, ce match à Monaco, c'est un match à domicile pour le GC Nice. C'est un stade qui est plein aux 3/4 de supporters niçois, où l'ambiance est survoltée. Enfin,
ce n'était pas le cas, effectivement.
Là dans les tribunes, il y avait une domination des supporters niçois.
Mais pas habituelle.
Mais déjà, peut-être un peu moins intense. Mais surtout, l'équipe, c'est recroquevillé. Mmh. Le but, Nice mène à la mi-temps sur sa seule occasion.
Miracle, ouais.
Un centre de Klos, une superbe tête de Boga.
Pénalty raté avant.
Globalement, voilà, il y a un pénalty raté. Il y a Akliouche déjà qui loupe un peu ses derniers choix.
Et l'autre
et en deuxième mi-temps.
L'autre star ivoirienne, Evan Guessant, vous l'avez trouvé comment ?
Parce Evan Guessant, je l'ai trouvé privé de ballon. J'ai rien à dire sur lui. Il n'a presque pas été servi.
Quand il est remis dans l'axe, il est quand même moins bon que quand il est sur un côté.
C'est-à-dire que l'avantage quand il est sur un côté, c'est qu'il peut prendre de la vitesse et repiquer, ce qu'il fait très bien. Dans l'axe, il a besoin que son équipe joue un peu haut pour avoir du jeu de combinaison. S'il fait la planche à 40 mètres de ses défenseurs ou de ses milieux, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas son profil. Donc, effectivement, il a montré certaines limites, mais ce n'est pas à lui que j'en veux. Moi, globalement, l'équipe, score aurait pu être plus sévère.
Dernier mot sur cette course à l'Europe, Eric Rabé, Sandra Tana.
Moi, je vois quand même, aujourd'hui, Lille et Monaco ne sont plus en Europe. Donc, du coup, il y a quand même... une reconcentration de
alors il ne joue plus la Coupe d'Europe et pour l'instant virtuellement ces deux équipes
mais je parlais qu'ils ne jouaient plus la Coupe d'Europe et du coup la concentration sur le championnat est bien plus intense et avec leur expérience européenne de cette année je crois qu'il y a quand même largement de quoi les voir arriver dans cette course en tête.
Alors peut-être une consolation pour vous Patrick Juillard, à mon avis on devrait reparler d'Evan Guessant demain dans Radio Foot. Pourquoi?
Et bien parce qu'on
dévoile l'identité des 12 nommés pour le prix Marc-Vivien Fauré, prix évidemment décerné chaque année, chaque fin de saison par RFI et France 24 et qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France. C'est un grand événement. Les 12 nommés pour le prix Marc-Vivien Fauré d'entrée d'émission, je pense dans la bouche d'Annie Gasnier, que demande le peuple. Et c'est le début, l'ouverture d'une belle séquence qui s'achèvera avec évidemment la révélation du grand gagnant et son interview dans Radio Foot International. Allez, on va laisser la Ligue 1, on va prendre la direction de l'Angleterre, mais dans l'intervalle, un peu de musique, maestro. Centrophy, c'est un groupe ghanéen, leur titre Domebi, et c'est tout droit tiré de la playlist du mois de Radio France International. When you're ready, I'm a
yasimo dom panku ano ni mnedo seni ya tibiara mini msenye de ya enchevo iyo e sumo mi ni masumo se unye ready ya menchevo ifi seri yasimo dom panku ano ni mnedo seni ya tibiara mini msenye de ya enchevo iyo e sumo mi ni masumo. Senia utibia, akika kika bebebe, mafano Sara. Sara, senia utibia, akika kika bebebe, mafano Sara. Nansume fami don't be a girl, so we need so we ready. Just do your best, I'll do my best, nobody knows tomorrow. And fami don't be a girl, so we need so we ready. I'll do my best, nobody knows tomorrow. Bebe osa, send me a utibia. Akika kika bebe be, mafano Sara.
Domebi, un titre des Ghanéens de Centrophile, la douceur musicale du lundi dans Radio Foot International.
And here comes Ramsey with that searing burst of pace and skill and the finish to match. 3-0, game set and match for Aston Villa. And Jacob Ramsey caps an excellent individual performance. With a very fine goal indeed, unstoppable.
Les Villains qui jouent un vilain tour à Preston North End. En attendant, pourquoi pas, de jouer un vilain tour au PSG en direct sur RFI la semaine prochaine.
Ça suffit, là.
vous me demandez de m'arrêter, c'est ça?
Voilà.
Direction Wembley pour le dernier carré de la Cup, la Coupe d'Angleterre, plus vieille compétition de football au monde.
Absolument, 154 ans.
Élémentaire, mon cher Bruno Constant. Les demi-finales donc de la Cup qui auront lieu avec Aston Villa, mais pas que. Sur le même terrain, le temple du football, Wembley, c'est ainsi, selon la tradition.
Je milite pour qu'on fasse ça en France, qu'on ait un week-end de football où les demi-finales de la Coupe de France soient au Stade de France. Vous imaginez Cannes au Stade de France face au Stade de Reims.
Ça offre une certaine équité, parce qu'un terrain neutre. Alors évidemment, il y a des équipes londoniennes qui peuvent participer.
Ça donne du prestige aux affiches.
Ouais, j'avoue, c'est pas mal.
Doublé de Marcus Rashford. Tiens, on en parle dans un instant. Et puis un but pour cette victoire contre Preston North End 3-0 d'un petit gars de Birmingham, un gars du cru pour Aston Villa, Jacob Ramsey.
Really good. It's been a while. My first time playing.
C'est super pour nous de disputer une demi-finale de Cup. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et pour moi, ce sera une première de jouer une rencontre à Wembley face à Crystal Palace. J'ai vraiment hâte d'y être. La victoire a été acquise après la reprise, même si on aurait pu prendre l'avantage en première mi-temps. On jouait vite, mais on ratait la moitié de nos passes. À la pause, le coach nous a demandé de faire mieux. Il va falloir mettre le curseur plus haut encore. On a des matchs à venir contre des grosses équipes comme Brighton, Nottingham Forest, la Ligue des Champions. J'attends tout ça avec impatience.
La Cup qui garde son attrait auprès des jeunes joueurs anglais. Jacob Ramsey qui est ému à l'idée d'aller à Wembley pour affronter un club qui viendra en voisin, Crystal Palace, club de Londres. Aston Villa, par ailleurs, on est à 5 victoires, toutes compétitions confondues. Aston Villa qui a accueilli récemment des revanchards qui pourraient effrayer n'importe quel supporter parisien lucide. Marcus Rashford, donc l'homme qui avait éliminé le PSG en 2019 de manière rocambolesque avec Manchester United. Marco Asensio, prêté par Paris. Alors si là, il n'y a pas malédiction qui s'annonce, je n'y connais rien. Il n'est pas le seul ancien de la capitale française à Birmingham c'est actuellement. Vrai. Luc Adigne sur le terrain et surtout l'ancien coach de Paris, Unai Emery, qui est désormais à la tête d'Aston Villa. On sait à quel point les anciens de Paris marquent contre Paris. C'est inévitable. C'est une des lois du football, tout simplement. Peut-être la 13e loi du jeu. Ça ne s'invente pas. Une finale de Ligue des Champions disputée par Paris, un seul but encaissé, une seule défaite, un seul but qui est l'œuvre d'un ancien Parisien, justement, Kingsley Coman en 2020 avec le Bayern. Bref, franchement, moi, je ne vois pas comment on peut ne pas voir un épouvantail dans cette équipe d'Aston Villa, plus faible sur le papier.
Oh là là, moi, je vais y aller, moi.
Mais qui a à peu près tout. Tout réuni sur le papier pour éliminer le PSG. Non, plus sérieusement, vous qui la suivez attentivement, Bruno Constant, Aston Villa, c'est pas mal, tout simplement.
C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas
parce plus que pas mal en ce moment.
Bah, ils sont 9e de Première Ligue. C'est pas tout à fait le niveau qui était attendu en début de saison. Ils ont fait une bonne campagne de Ligue des Champions parce qu'ils ont terminé dans le top 8, contrairement au PSG. Ensuite, se sont qualifiés face au club de Bruges. En huitième de finale, qui n'était pas l'adversaire le plus affolant, on va dire. Et en plus, ils l'ont fait en tremblant. On ne peut pas dire que ça a été une performance, une double confrontation très convaincante des Villans. Mais effectivement, quand une équipe est dirigée par Unai Emery et arrive en quart de finale de Ligue des Champions, il faut se méfier. Ce qu'il avait fait avec Villarreal il y a quelques années, face au Bayern, face à la Juve, ils avaient éliminé tous les deux. Avant de tomber face à Liverpool, ça incite à la méfiance, forcément. Et je sais pas, il n'y aura pas de revanche pour Unai Emery. Il n'est pas dans cet état d'esprit-là par rapport au PSG. Et comme on rappelle souvent effectivement la remontada avec Unai Emery, il faut rappeler quand même qu'il a mis 4-0 au Barça au match aller. Et ce match-là, moi, j'y
étais. Ça, c'était avec le PSG.
Avec le PSG. Et ça avait été un match extraordinaire, une grande force qui se dégageait de cette équipe. Mais c'est ce qu'il arrivait à faire avec Aston Villa. Il a construit une équipe assez solide et surtout qui a changé de visage cet hiver. Parce que Marcus Rashford qui est arrivé, Marco Asensio, c'est deux joueurs offensifs avec une expérience européenne. Et forcément, ça change de visage. Et en plus, Marcus Rashford a retrouvé le chemin défilé. Oui. Ça faisait 120 jours qu'il n'est pas marqué. Donc,
deux joueurs offensifs d'expérience et deux joueurs extrêmement revanchards. Ouais. Qui ont des choses à se prouver, qui ont des choses à prouver.
Asensio sur le PSG, moins quand même.
Ouais, un peu quand même, parce que rappelons qu'au début du règne de Luis Enrique, il était Asensio, il partait souvent titulaire. Il avait un bon temps de jeu.
On ne peut pas dire qu'il y a un vécu suffisant pour pas être revanchard.
Juste pour faire une aparté sur
revanchard, pas contre le PSG, mais revanchard par rapport au fait qu'on l'ait un peu dénigré. Alors que je pense que, personnellement, que c'est un très bon attaquant.
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin d'être revanchard. C'est-à-dire que de Patrice Loco à Kingsley Coman en passant par Fiorez et Loric Sana, un ancien Parisien qui marque contre Paris.
Je ne connais pas tous ces joueurs.
Un ancien Parisien qui marque contre Paris pour son retour.
Il paraît que c'est une légende pour ça. Il paraît que c'est une légende, vraiment.
Mais quelle légende ? Une finale de Ligue des Champions, vous trouvez le moyen de la perdre sur un but de la tête d'un ancien Parisien qui ne marque jamais et encore moins de la tête.
En régularité, il me semble que c'est une légende. Je sais que j'ai vu des stats. Non, mais c'est vrai. Où il n'y a pas tant que ça des joueurs qui... Alors évidemment, que nous, on le voit. Quand tu perds la finale de Ligue des Champions avec un Coman qui marque contre toi, évidemment que tu vois que c'est un ancien du Paris Saint-Germain. Mais... plus sérieusement, je sais pas si moi je pense qu'un Emery est un entraîneur incroyable et qui il a surtout pas eu les conditions pour pouvoir bien s'exprimer au Paris Saint-Germain.
Alors, mais il a jamais rien dit de mal sur le PSG. Bon,
après,
il est pas revanchard.
Ils ont des clauses. Hein, après,
oui, bien sûr.
À mon avis, je pense que c'est surtout ça.
Non,
qui
on lui
fait...
a pas laissé le temps, c'est sûr.
Mais je pense qu'on lui a pas laissé le temps quelque
part. Non, mais en revanche, c'est comme l'a rappelé Bruno Constant, c'est un entraîneur qui a gagné 4 Ligue Europa, il a fait une finale en plus.
C'est pas par hasard, et avec les équipes avec qui tu joues.
C'est un entraîneur de coupe.
Mais bien sûr. Ouais.
Et
bien
sûr. Aston Villa, c'est un club de coupe, parce que le dernier trophée d'Aston Villa, c'est pas un trophée national, c'est une
Coupe d'Europe.
Coupe d'Europe des clubs champions. Je crois qu'il n'y a pas une Coupe de la Ligue en 96 entre les deux.
Peut-être. Il y a la dernière, alors Coupe de la Ligue, je ne sais plus, mais la dernière Cup, ça remonte à 1957.
Mais le plus terrible pour Aston Villa, c'est que le trophée. Le plus récemment gagné par un club de Birmingham, c'est Birmingham City qui gagne la League Cup en 2011 avec un but de Obafemi Martins contre Arsenal.
ça s'invente pas.
Alors que c'est un club qui aujourd'hui est en League One, je crois, qui est retombé dans les tréfonds du football. Donc il y a aussi, même pour Aston Villa, c'est le retour un peu d'un club qui était devenu interdit à ce niveau-là et qui, grâce à Unai Emery, a retrouvé des niveaux insoupçonnés, en fait.
Non, mais ils ont surtout gagné leur respect avec l'arrivée d'Emery, qui a installé peut-être un changement d'état d'esprit en se disant c'est possible soit de gagner ou soit d'aller plus loin dans les compétitions. Et peut-être que ils abordent différemment les matchs et que sans se mettre de pression comme Emery est capable de le faire, parce que si Villarreal et toutes les autres équipes, je crois qu'il y avait Séville aussi dedans, toutes les autres équipes qui ont réussi à faire ce qu'il a réussi à leur donner.
Il a gagné 3 fois d'affilée la Ligue Europa avec Séville.
C'est pour ça que je dis attention. Évidemment, tu mérites le respect et donc attention à ce que tu es capable de faire.
C'est vrai que là, on est dans une phase où on présente Aston Villa, excusez-moi Bruno Constant, rappelez que sur le terrain, le 9 avril, au Parc des Princes, le club qui aura à son palmarès une Ligue des Champions n'est pas celui qui veut le plus la gagner cette saison, c'est bien Aston Villa. Donc c'est quand même un ancien vainqueur de la Ligue des Champions.
Oui,
c'était il y a longtemps, mais
c'est 82. Il y a 40 ans, plus de 40 ans, donc c'est...
Mais tu l'as gagné.
C'est l'histoire, ça compte.
Oui, non, mais c'était une autre époque aussi. C'était pas la Ligue
des
Champions.
Coupe d'Europe des clubs.
Voilà, il y avait qu'un qualifié qui était le champion.
Contre qui, le Bayern?
Bayern, oui, peut-être bien, oui.
Ah,
une
petite
colle. Vous savez pas ça, monsieur Julien?
On va vérifier.
Non, mais la Coupe d'Europe, c'est dans une semaine. Moi, je suis dans la FA Cup, moi. Non, mais il fait partie de ces grands clubs anglais qui ont gagné la Coupe d'Europe. Il y en a peu, il y en a 6. Et effectivement, et puis surtout, il y a un stade qui inspire ça, parce que quand vous allez à Villa Park, c'est un vrai stade à l'anglaise, 4 tribunes, briques rouges, vous sentez tout le parfum européen de ce stade, il y a une ambiance, une atmosphère qui est assez particulière. C'est une équipe qui a fait tomber le Bayern Munich cette saison, et je crois que c'était le vrai déclic en Coupe d'Europe quand ils les battent. Ils se sentent que voilà, c'était possible de faire tomber les plus grands d'Europe. Et le PSG qui arrive, qui sera largement favori. Hein. Le PSG, pour moi, est largement favori.
C'est ce qu'on dit aussi en Angleterre.
Aston Villa, c'est nettement moins fort que Liverpool cette saison. Il suffit de voir la saison Première Ligue. Et même depuis le début de l'année, ils ont quand même du mal, de manière générale. Même en Ligue des Champions, ils ont fini un peu dans le dur. Mais voilà, on sait que sur une double confrontation, Unai Emery, il est capable de tout. Il est capable de faire déjouer l'adversaire. Et c'est une des grandes forces d'Unai Emery.
C'était bien contre le Bayern en 82. Après vérification, c'était bien contre le Bayern Munich, 1-0.
Si vous ne savez pas, vous me demandez Bruno Constant. Dernier mot là-dessus.
Après, juste pour dire, je pense vraiment, et c'est ça qui a changé aussi du côté du Paris Saint-Germain, il n'y aura pas de prise à la légère de Aston Villa. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une équipe qui a conscience qu'il faut respecter l'adversaire, il faut jouer avec ses qualités. Et il y a beaucoup d'humilité de ce côté-là. Donc, c'est ce qui change aussi dans l'approche et peut-être dans le moins d'inquiétude que d'habitude.
Et on rappelait la remontada, donc avec le pauvre Emery sur le banc, c'était face à Luis Enrique qui désormais sera sur le banc du PSG. Il y aura aussi ce petit match dans le match, mais on aura largement le temps d'en parler pour de l'annoncer, de faire monter la sauce sur ce quart de finale de Ligue des Champions. Match aller le 9 avril, retour le 15 à Villa Park, et ce sera à suivre évidemment sur RFI, puis beaucoup de débats à suivre dans Radio Foot. Et nos auditeurs, justement, les auditeurs de Radio Foot, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils soutiennent, est-ce qu'ils regardent, analysent, craignent éventuellement Aston Villa? C'est le mix du lundi.
C'est Emmanuel Kane depuis le Togo. L'équipe d'Aston Villa cette saison est l'une des meilleures équipes de Premier League, et sur le plan européen, c'est une équipe qui séduit. Unai Emery a fait du très bon boulot. Il a constitué une équipe compacte, une équipe homogène, sans véritable star. Et moi, je vois cette équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Je vois cette équipe même en finale de la FA Cup. Et je vois cette équipe se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison 2025-2026.
C'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Je pense que cette équipe d'Aston Villa, c'est une très bonne équipe façonnée par l'entraîneur espagnol Unai Emery. Alors lui, c'est un entraîneur qui n'est pas fait pour les très très grands clubs style le Paris Saint-Germain ou Arsenal, parce qu'il n'a pas beaucoup réussi dans ces clubs-là avec beaucoup de stars. Mais dans les clubs un peu moins hippies comme à Séville, où il a gagné 3 Ligue Europa quand même, ou à Villarreal où il a gagné aussi une Ligue Europa, et maintenant Aston Villa, il arrive toujours à faire un très bon travail. Et d'autant plus, ils se sont renforcé lors de ce mercato hivernal.
C'est Oumar Diallo, malien résident au Sénégal. Je tenais en fait à tirer chapeau à Unai Emery et à Aston Villa, qui traversent en fait l'une des meilleures périodes de leur existence.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, Aston Villa, en tout cas, doit son salut à Unai Emery. Et il travaille aujourd'hui sans complaisance, sans pression, contrairement à ce qu'il a vécu lorsque il était de passage au niveau du Paris Saint-Germain.
Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo depuis Mbour au Sénégal. Vraiment, l'équipe de Unai Emery a réalisé une bonne saison et je les souhaite au moins de prendre une finale.
C'est Franck depuis la Côte d'Ivoire. Unai Emery et ses joueurs procurent du beau jeu. Aston Villa est vraiment en forme. Cette équipe procure du bon jeu.
C'est Gilda Vodigue depuis le Bénin. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Aston Villa pour sa prestation hier. Et surtout le doublé de Rashford qui venait de descendre avec Aston Villa. Et grand coup de chapeau à l'homme orchestre Unai Emery qui a fait un travail formidable.
Chaque lundi, nos auditeurs ont du talent et des avis dans Radio Foot International. Votre note vocale via WhatsApp, le numéro à retrouver sur notre page Facebook Grazie Mille.
Comeiners subito ancora per Vlahovic, vince il duello con Vasquez, subentra il dis, ancora il dis, la finta, Kenan calcia, un super gol di Kenan, il dis, Juventus 1 Genoa 0, se l'è inventato dal nulla Kenan Yıldız, un'altra perla, bellissimo.
E c'est terminé, la Juventus a souffert, mais la Juventus s'impose 1-0 face au Genoa pour la première. Igor Tudor.
Tudor réveille la vieille dame. Superbe. Igor de son prénom, nouvel entraîneur croate de la Juventus Turin. Et si on l'écoutait?
Io sentito, sono stati belli.
J'ai entendu chanter les supporters, c'était magnifique, très émouvant et stimulant pour les joueurs. C'est très important de se sentir soutenu dans la situation actuelle, mais j'étais surtout concentré sur la rencontre, sur ce qu'il fallait mettre en place, parce qu'il fallait surtout gagner ce premier match et commencer dans de bonnes conditions.
Comme j'ai dit prima, era importante partire con il piede giusto.
Émotion et première réussite 1-0 contre le Genoa pour celui qui est donc le nouvel entraîneur de la Juventus, qui en a été un défenseur, qui était également l'ancien coach de l'OM. Saison 2022-2023, très appréciée cette saison des supporters, dans les résultats comme dans le jeu. Et puis dans une sorte de classico de coach, Eric Rabessandratana, il faut préciser, qu'Igor Tudor, sur le banc de la Juventus Turin, il remplace un ancien joueur du PSG, à savoir ouais. Thiago Motta. Le but contre le Genoa, il est l'œuvre de l'international turc qui dise à la 25e minute. C'est encourageant, vous y croyez, Igor Tudor, au chevet de la vieille dame?
Ouais. Complètement, moi, parce que c'est un homme, vous l'avez dit, c'est un homme du club. Une petite anecdote, dès qu'on l'a appelé au moment du limogeage de Thiago Motta, il a fait 1000 km en voiture pour venir de Split à Turin. Donc il est en mission, c'est le club de sa vie, c'est peut-être le poste de sa vie. Il avait déjà quitté son poste de numéro 1 à Split pour devenir le numéro 2 de Pirlo à l'époque.
Ça n'a pas duré longtemps.
Oui, mais c'est le club, le club qui fait courir Igor Tudor, c'est la Juve, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est un aboutissement.
S'il doit réussir, pour lui, ça ne peut
il
être que là.
Il a été joueur dans les années 2000.
Et, c'était un joueur important, enfin, c'était voilà. Un cadre. Hein.
Et donc, un cadre d'une équipe monstrueuse alors, sur le papier.
Voilà, là, je pense qu'il peut rebooster le groupe. La troisième place est tout à fait jouable. Pour les deux premières, il y a trop d'écart. Donc la troisième place, c'est une place qualificative en Ligue des Champions. Donc ça peut motiver le groupe. Moi, j'aime bien ce coach. J'aime bien comme il fait jouer ses équipes.
Ouais. Moi aussi, j'aime bien le coach.
Seule réserve que j'ai, c'est que c'est un jeu extrêmement énergivore. Donc il peut user les joueurs. Mais sur les débuts de mandat, ça marche. Après, il sait ce qu'il veut et il sait comment il doit faire jouer les joueurs.
Mais là, ce serait un problème éventuellement sur une longue période. Là, il est un peu en mission, justement.
Il a un contrat, effectivement, jusqu'à la fin de saison. Condition, avec une option.
Bruno Constant, on se souvient, effectivement, les 1000 kilomètres, je suis pratiquement pas surpris de cette anecdote. C'était quelqu'un qui demandait beaucoup d'engagement, d'énergie. À ses joueurs, à l'OM, c'était vraiment un coach qui collait à cette philosophie droit au but de l'Olympique de Marseille, ce panache réclamé par les supporters.
Moi, j'adore aussi ce type d'entraîneur parce que ça nous rapproche de Jürgen Klopp, de tous ces entraîneurs, beaucoup d'intensité ou Bielsa. Après, est-ce que c'est viable sur le long terme? Ça va sur du court terme, mais est-ce que les joueurs, avec les joueurs de la Juve, l'effectif est quand même assez moyen.
Et puis surtout, on a
vu que c'est un effectif qui est quand même assez reluctant, je sais pas, en disant
réticent.
Réticent en anglais, reluctant.
Reluctant.
Je parle en anglais.
Pardon,
réticent aux
sorry.
Efforts, et on l'a vu sous Motta, où Motta avait quand même souligné pas mal de problèmes d'attitude, à voir si ça peut tenir sur la distance. Là, c'est une victoire, ok, mais contre le Genoa. Donc allons doucement. voir. Moi, pour moi, l'effectif est trop faible. Et il y a trop de joueurs à caractère fort, mais pas dans le bon sens. Donc, moi, je comprends le choix de rebondir avec lui, mais je ne comprenais pas le choix de virer Thiago Motta dans un nouveau projet de jeu au bout de même pas une saison.
Alors, Thiago Motta est resté sur deux claques reçues contre l'Atalanta à la maison et contre la Fiorentina. 7 buts encaissés en deux matchs.
Non, mais il n'y a rien, qui t'empêchait de le garder jusqu'à la fin de saison. Il reste quoi, 9 matchs, 7 matchs, 8 matchs.
Personne n'imaginait la Juve championne cette saison.
Oui, mais alors, justement, on parle de l'ADN Juve. Vraiment ce maillot qu'il a dans la peau, Igor Tudor, la Juve, c'est la victoire à tout prix, c'est une certaine idée, c'est le club du Nord, de Turin,
mais c'est ce qu'il voulait changer,
mentalité un peu industrielle avec une certaine forme de...
C'est ce qu'il voulait changer, il ne voulait plus de ça, il ne voulait plus d'Allegri. Allegri c'était ça, c'était l'ADN de la Juve, c'était on gagne peu importe la qualité de jeu, et c'était ça, il a gagné. Mais on voulait plus ça, la Juve. On voulait un jeu beaucoup plus attrayant pour le public.
Oui. Il ne correspond pas à l'identité de la Juventus, historiquement.
Mais est-ce que c'est possible de la changer si on la change?
C'est
si
un
on
club veut qui la gagne changer, un peu salement.
Si on veut la changer et qu'au bout de même pas une saison, on vire l'entraîneur qui est amené à nouvelles idées.
Voire pire, effectivement.
Non, c'est compliqué. Tudor, je pense qu'il a il a deux choses importantes. Il a des idées très précises et très claires de ce qu'il veut faire sur un terrain. C'est un entraîneur de conviction.
Mais Motta les avait aussi. Hein.
Certes, mais surtout, Tudor, il a un avantage sur Motta, c'est que c'est un ancien de la maison. Donc, si vous voulez créer une sorte d'union sacrée, rameuter les supporters, recréer un élan...
Il n'y a plus de Chiesa, il n'y a plus de Chiellini, il n'y a plus Bonucci, il n'y a plus tout ça.
Si on veut recréer un élan, je pense que quand même, Tudor, c'est une bonne carte, à mon sens. On verra après si ça... J'ai un doute, comme vous, Bruno, sur la durée, mais je pense que sur le début...
C'est ça.
J'ai plus des doutes sur le club.
Moi,
j'aime bien ce qu'il a fait à l'OM, parce qu'il faut avouer quand même que le jeu était intéressant... L'engouement derrière tout ce qu'il a mis en place était bon. Le travail des joueurs, c'est ça qui est important, c'est surtout le travail collectif des joueurs et l'investissement des joueurs dans le travail qu'il y avait à faire était vraiment bon. Donc je me dis que si tous ces éléments-là sont là à la Juve, il y a quand même... Mais j'ai aussi un doute, c'est-à-dire que voilà, est-ce que les joueurs ont vraiment envie, parce qu'ils ont quand même lâché Motta, est-ce qu'ils ne sont pas capables de lâcher Tudor s'ils n'ont pas envie de travailler?
Et son caractère à lui.
J'en reviens un peu à l'identité de la Juve, donc le club de la famille Agnelli, donc le club de Fiat, le club d'une sorte de grand capitalisme où
Stellantis,
ça file droit et ça obtient des résultats. Son management très dur... À Marseille, il avait pu poser des soucis, Dimitri Payet, l'idole, l'artiste avait été un petit peu mis sur le banc. Est-ce que là, justement, c'est pas le match parfait, entre guillemets, avec, en mauvais français, avec la Juventus Turin, il colle complètement.
Les dirigeants font le pari de l'opération commando sur les quelques dernières journées pour accrocher ce qui est possible d'accrocher. À mon avis, la troisième place est à leur portée. Et ensuite, si le club retrouve la Ligue des Champions, ça sera un argument pour aller voir les actionnaires, leur dire de sortir de l'argent pour faire un beau mercato.
Sauf s'ils vont chercher Antonio Conte, comme si c'était ce qu'ils disent depuis quelque temps.
Oui.
Et l'autre problème, on finira peut-être là-dessus, c'est que il a l'air d'être assez court dans ses missions. L'OM, mais il a claqué la porte au bout d'une saison. La Lazio, l'année dernière, pareil, il est parti à Séville.
Son caractère. C'est pour ça qu'il y a des doutes aussi sur son caractère.
Mais
moi, j'adore l'entraîneur.
Il avait fait très bonnes choses, même avec un effectif modeste à l'Hellas Vérone.
Non, mais d'accord. Oui, mais d'accord. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, entraîneur, il faut s'inscrire dans la durée. Et c'est pas que la faute des dirigeants ou du groupe. Il y a moins l'entraîneur a une responsabilité.
Conte, c'est un peu pareil. C'est un gros caractère.
Ouais, mais il gagne, Conte. Il gagne des trophées pour le coup.
Ouais, mais Tudor, c'est
Chelsea,
encore
gagné,
un entraîneur plus jeune.
On verra s'il y a match entre les anciens de la Juventus pour coacher la vieille dame. En attendant, c'est Tudor qui est là et qui a réussi sa première. Vous avez réussi ce qui n'était pas du tout votre première dans Radio Foot, messieurs.
Le groupe
Bruno
bien.
Constant, sosie capillaire d'Igor Tudor, Patrick Juillard et puis l'ancien Igor Tudor du Paris Saint-Germain, Eric Rabé, Sandra Tana. Demain, merci, les nommés du Pripo et Annie Gasnier. Encore merci à Pierrot Guérin et Laurent Salerno. L'information à suivre sur RFI. Très bonne soirée.